Bienvenue à Evergreens by Spuekkes, un podcast sur la durabilité, la technologie et l'avenir dans le secteur bancaire et financier. Présenté par Brian Ferrari, voici ses invités.
Mon nom est Bertrand Latou, je travaille à Luxembourg House of Cybersecurity sur tout ce qui est partenariat institutionnel.
Mon nom est Philippe Barra, je travaille chez le National Cybersecurity Competence Center et je suis IT Infrastructure Engineer.
Mon nom est Lars Feb, je suis CISO à la Spuekkes.
Bienvenue pour un nouvel épisode de Evergreens by Spuekkes où on va encore une fois traiter de problèmes qui sont plutôt d'actualité et donc où je pense qu'il est important de faire une grosse différence dès le départ. La cybersécurité, c'est quoi et surtout, qu'est-ce que ce n'est pas?
Disons que la cybersécurité, on la voit avant tout comme la sécurité de tout ce qui est de toute infrastructure, système qui est lié à l'Internet. Le cyber, c'est très clair, c'est lié à l'Internet, donc les technologies Internet. Et donc, c'est avant tout un travail de prévention, un travail de protection, et puis, quand c'est nécessaire, un travail de réaction sur incident. Il faut faire attention, on voit le développement ces jours de fraudes qui impliquent des brèches de sécurité, mais la fraude va au-delà de la sécurité. La fraude, c'est un phénomène où finalement on a une personne, un criminel, qui va abuser d'un système ou d'autres personnes afin de leur voler des actifs, que ce soit de l'argent, que ce soit des informations. Et donc, on va avoir des modes opératoires qui peuvent être des modes opératoires anciens, ce que, par exemple, en Suisse, le code pénal appelle le vol à l'astuce, qui est un des noms de l'escroquerie. Et qui va consister à abuser de la crédulité de personnes. Et on peut renforcer ce mode opératoire ancien en utilisant des outils très modernes, comme par exemple des deepfakes, donc des fausses vidéos ou des faux enregistrements sonores, pour accentuer l'usurpation d'identité qu'on est en train de commettre.
En complément à ce que tu viens de dire, on peut aussi résumer cybersécurité, donc c'est vraiment la protection d'infrastructures informatiques par rapport à des menaces qui sont spécifiques au monde cyber, donc au monde informatique. Donc c'est souvent une exploitation de mots de passe qui sont vulnérables ou une vulnérabilité qui est présente dans des systèmes. Et donc c'est vraiment comme ça que de notre côté, on délimite ce périmètre qui est communément appelé cybersécurité.
Donc, en gros, on pourrait dire que la fraude, ça enveloppe beaucoup, beaucoup de choses, mais que la cybersécurité, c'est une façon de faire de la fraude, mais que c'est principalement lié à l'informatique.
C'est une façon de se protéger de la fraude, parce que la fraude va essayer de mettre en défaut la cybersécurité, souvent, dans les fraudes modernes. Mais ce sont deux domaines qui se touchent, mais qui vont à l'opposé, en fait. Si la cybersécurité est suffisamment forte, la fraude va être très difficile, voire impossible.
On peut aussi parler de crime 2.0, parce que souvent, ce qu'on voit, ce sont des astuces ou des techniques nouvelles, mais pour faire des actes criminels comme dans le passé. C'est juste une autre version, un autre vecteur pour faire ces actes criminels.
Mais donc, on connaît tous la fraude au président et des choses comme ça. Quelles sont les cyberattaques qui sont les plus répandues, celles qu'on voit le plus à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a un certain schéma qu'on peut observer?
Non, on pourrait différencier les attaques qui visent des utilisateurs individuels, des citoyens, et puis les attaques qui visent des entreprises. Et dans le monde de l'entreprise, il y a effectivement donc ces fraudes qui croissent, mais ce qui restait, en tout cas jusqu'à récemment, le type d'attaque la plus commune était le ransomware. Parce que ça permet pour les criminels de gagner beaucoup d'argent avec finalement un volume d'efforts relativement limité.
De façon superficielle, c'est quoi le ransomware, juste pour...
Alors le ransomware, en gros, c'est des criminels qui vont envoyer un malware, donc un logiciel malfaisant qu'ils ont préparé, dans le système d'une entreprise, et ils vont chiffrer, encrypter toutes les données de cette entreprise, et ensuite, ils vont demander à l'entreprise une rançon pour pouvoir lui rendre ces données. Donc, grosso modo, c'est le mécanisme.
Ça, je suppose, c'est la majorité des gens le connaissent au niveau privé, mais est-ce que c'est très répandu aussi en entreprise?
C'est la principale attaque contre les entreprises actuellement. En tout cas, on entend nos collègues qui interviennent sur incident en parlent comme étant l'attaque la plus courante pour eux.
Bah, souvent, c'est aussi vu comme une forme d'attaque opportuniste. Donc, on envoie à tout un ensemble d'adresses e-mail un courrier préparé qui contient soit un virus, soit qui pointe vers un endroit où le virus peut être activé. Et donc, on voit vraiment un peu de tout. D'un côté, tous les internautes peuvent être touchés, que ce soit maintenant quelqu'un qui l'a ouvert sur son adresse email privée ou professionnelle. Souvent, les impacts, ils sont différents pour une personne privée que pour un employé. Mais néanmoins, on voit vraiment ce type d'attaque arriver chez tout le monde, vu que souvent le vecteur de distribution est la messagerie et on ne fait peu de distinction entre une adresse email professionnelle ou une adresse email privée. Bon, on a aussi d'autres formes d'attaque, comme tu viens de poser la question. On a aussi des dénis de service qui sont malheureusement très à la mode dernièrement. Les dénis de service visent essentiellement à saturer soit la bande passante vers Internet d'un système, voire de saturer un système au niveau de ses capacités disque ou mémoire. Donc, en gros, on rend indisponible un service et avec cette forme d'attaque, on peut espérer d'un côté être payé pour que l'attaque s'arrête ou ça peut être également utilisé pour montrer que un système est vulnérable ou on peut déclencher une perte de confiance auprès des consommateurs ou des clients. Donc c'est aussi quelque chose qui est quand même très présent quand on regarde un peu les incidents au niveau national voire international.
Ça, c'est en anglais, c'est les DDoS attacks, c'est ça?
C'est exactement ça.
Et donc ça, si je me rappelle bien, c'est juste envoyer plein d'informations sur les serveurs pour engendrer qu'ils crashent.
Qu'ils crashent ou que, en tout cas, le système soit indisponible aux vrais clients ou aux vrais consommateurs. Oui.
Puis, si je peux complémenter une attaque en plus, il y a des exploitations des failles logicielles ou en anglais zero day attacks qui sont beaucoup plus techniques, peut-être un DDoS ou un phishing. Ransomware reste assez technique aussi quand même. Et dans les zero day, ils sont très individuels aux logiciels utilisés et ce que ça veut dire. Et ça sont des vulnérabilités où en fait l'utilisateur, il ne doit pas faire une action, mais plutôt l'attaqueur qui vise une vulnérabilité qui déclenche alors peut-être quelques processus qui lui permet de lancer sa attaque. Et donc on peut pas dire qu'il y a un type zero day comme ça, un autre, c'est vraiment individuel du logiciel. Et ces attaques-là, elles sont très dangereuses, car voilà, ça permet de viser quelque chose sans avoir un retour d'un utilisateur. Au phishing, par exemple, on attend jusqu'à il ouvre le fichier ou il reprend, mais là, vraiment, c'est juste l'attaque qui est importante. Pour rester simple.
J'ai jamais entendu de zero day, donc pourquoi ça s'appelle zero day?
Au début, lorsque les premiers virus informatiques ont fait surface, et je suis suffisamment vieux pour m'en souvenir, on a vu le virus apparaître et en général, le logiciel antivirus connaissait déjà le virus et on était protégé. Et au bout d'un certain moment, les éditeurs de virus, ils ont quand même vu que leur virus était très souvent, très rapidement détecté. Ils ont commencé à faire des virus qui changent rapidement de forme, donc deviennent indétectables par les logiciels qui sont distribués. Et donc aujourd'hui, les virus qui ne sont pas détectés par la majorité des antivirus sur le marché avec les signatures à jour, on les appelle zero day parce que justement le jour où ils apparaissent, ils sont pas détectés et donc du coup on n'est pas protégé. Et c'est un peu une évolution historique qui a fait qu'on parle aujourd'hui de zero day.
Et ça a été étendu en fait après aux vulnérabilités en général parce que en fait, les vulnérabilités, quand elles sont découvertes, soit par des chercheurs, soit par les éditeurs logiciels, elles sont ensuite donc publiées, en général, avec un patch. Donc, on sait tout de suite réparer, en gros, sa vulnérabilité dans son système. Et il y avait une similarité entre ce que Lars décrivait et puis les vulnérabilités qui, elles, n'ont pas encore été découvertes par les éditeurs logiciels ou les chercheurs en sécurité, mais qui, par contre, ont été découvertes par des criminels et ils vont donc les exploiter. Et là aussi, on a dit, tiens, c'est comme les virus qui étaient inconnus. On ne connaît pas cette vulnérabilité. Donc, Zero Day, ça recouvre maintenant l'ensemble, en fait, tant du côté virus que du côté vulnérabilité. Et l'idée, c'est ce que soulignait Philippe, l'utilisateur n'a pas à être impliqué. Donc, c'est très, très pratique pour l'attaquant parce qu'il va pénétrer le système, prendre le contrôle du système sans que ce soit détecté parce que ça n'est pas connu publiquement au niveau sécurité, et les utilisateurs n'ont pas à interagir, donc les utilisateurs ne peuvent pas dire « Ah ben, on m'a demandé quelque chose d'anormal et signaler quelque chose d'anormal. »
Mais je suis peut-être... Ouais, je sais que je suis très naïf, mais est-ce qu'on ne peut pas juste renoncer au problème et éviter que les gens téléchargent, dans leur entreprise, sur les PC de l'entreprise? Est-ce qu'on ne serait pas à l'abri?
C'est vrai qu'on peut éviter le risque en éteignant les systèmes. Donc, il faut toujours trouver quelque part le compromis entre le besoin qu'on veut adresser en utilisant les systèmes informatiques et les risques qui sont liés à ça. Donc, éviter, par exemple, les téléchargements de fichiers, oui, ça va fonctionner dans certains cas où les gens n'ont pas besoin d'être sur Internet ou n'ont pas besoin de downloader des fichiers. Malheureusement, la réalité, souvent, il y a un besoin métier derrière, et donc du coup on doit l'autoriser et on doit vraiment trouver une configuration qui minimise les risques mais qui adresse avant tout les besoins du métier. Ou
parce que les utilisateurs, eux, doivent remplir leur mission business, donc si on leur interdit, très souvent ce qui va se passer, ils vont essayer de trouver un moyen pour contourner l'interdiction. Et là, on se trouve dans une situation qui est beaucoup plus compliquée parce que on peut voir la mise en place de systèmes parallèles où des utilisateurs arrivent quand même à ramener des fichiers externes dans le système de l'organisation parce qu'ils ont pu utiliser, je sais pas, leur téléphone portable ou une faiblesse même des configurations, ils finissent par trouver. Et donc, c'est très problématique. Et Lars souligne un des problèmes, une des difficultés les plus grandes pour les responsables sécurité, c'est arriver à trouver cet équilibre entre la pression due aux attaques qui donne envie de fermer un maximum d'écoutilles et le fait que ce n'est pas la sécurité qui fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'entreprise, ce sont les gens qui sont dans des fonctions business et on ne doit pas les empêcher d'agir. Donc, c'est extrêmement difficile, ça demande beaucoup de négociations. Ça a amené les responsables de sécurité à développer différents modèles, avoir des champions de la sécurité dans les divisions business. Il y a énormément de choses qui sont possibles. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas sur un problème technique, on est sur un problème humain et organisationnel. Et donc, ça souligne aussi une des grandes difficultés qui s'ajoute à la mise en place de la sécurité, c'est que c'est non seulement un problème technique, mais il faut aussi gérer les problèmes humains et les problèmes organisationnels qui vont avec. Donc, on ne peut pas résoudre les problèmes de sécurité juste avec un outil magique qui bloquerait tout. Et c'est dommage, mais...
voilà. Voilà, je voulais encore ajouter une réponse à ta question pour ne pas utiliser un certain outil. Je prends un cas du Apple, avec la messagerie iMessage. Donc, en tant qu'utilisateur Apple, ça va être très difficile de ne pas utiliser iMessage quand on veut contacter des potes ou n'importe qui. Et dans ce cas-là, il y a eu un zero day. Et donc, l'attaqueur a envoyé une message par iMessage et directement l'utilisateur recevant ce message était vulnérable. Donc, il était attaqué, quoi. Il n'a pas ouvert le message, il a juste reçu le message. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça sent vraiment des spécificités de chaque entreprise, de voir qu'ils ils n'ont pas des vulnérabilités aussi graves. Dans ce cas-là, bien sûr, Apple a fait un release, un fixe, et puis c'était bon, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Où il y a des entreprises qui utilisent on va prendre SAP. S'il y a une grande vulnérabilité dans la SAP, un zero day, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. Ils ne peuvent pas, en futur, prévoir une telle vulnérabilité.
Donc, en fait, maintenant, sur l'exemple que tu as donné, même sans rien faire, en tant qu'utilisateur, tu es vulnérable. Même si tu ne cliques pas dessus, si tu ne télécharges pas, on peut être affecté.
Dans certains cas, oui. Mais ce n'est pas la faute d'utilisateur, c'est la faute d'entreprise qui a créé ce logiciel ou ce produit. Et donc, je pense que c'est pour ça il faut toujours faire gaffe de ce qu'on partage, donc les données personnelles, et où on le met et comment. Parce qu'on ne peut jamais envisager des cas aussi graves que dans, par exemple, avec Apple.
Donc maintenant, je vais vous embêter, mais qu'est-ce qu'on fait alors au niveau personnel et niveau entreprise, justement pour... Parce que, encore une fois, on est dans une course où on a toujours le deuxième prix.
Pas forcément. Je vois ta déception. Mais d'un autre côté, ça existe aussi dans d'autres domaines de la vie. Tu es venu en voiture ce matin. Ta voiture, elle a aussi des faiblesses. Elles sont peut-être pas connues. On a des cycles de vie différents qu'en informatique, mais il y a aussi des faiblesses dans la voiture. Et il y a aussi des précautions que tu prends. Donc, tu respectes le code de la route. Tu ne pousses pas ta voiture aux limites tous les jours. Hein? Et dans l'informatique, c'est un peu la même chose. On construit des systèmes complexes, hautement intégrés, et il est très difficile, voire impossible, de maîtriser 100% de toutes les interactions dans les différents composants des systèmes. Et donc là, il y a une complexité inhérente au système qui doit être maîtrisée. Et donc, ça joue également au niveau de la sécurité. Si tu veux vraiment avoir 100% de sécurité, il faut faire une conception très longue, très détaillée. Il faut constamment l'adapter et ça va rendre juste les cycles d'innovation très lents. Ça va augmenter énormément les prix des systèmes. Et donc, du coup, on ne sera plus dans le même rythme qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, quelque part, il faut accepter que les systèmes ne sont pas parfaits, et pour te protéger contre le risque résiduel que tu acceptes en utilisant ces systèmes-là, il faut avoir une certaine hygiène de base. Tu peux faire des choses comme systématiquement mettre des mots de passe complexes. Tu peux systématiquement activer les mises à jour automatiques des systèmes. Il faut aussi savoir grosso modo, quels sont les comportements à risque. Donc, tu ne vas pas saisir ton mot de passe sur n'importe quel site qui n'est pas connu, etc. Donc, il y a un ensemble de mesures qui te permettent quand même de réduire de manière significative les risques en utilisant les systèmes informatiques.
En particulier, au niveau d'une entreprise, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte que, comme dit Lars, la sécurité n'est pas à 100%, il y a un risque résiduel, mais que si jamais une attaque se produit sur un des points de faiblesse restants, elles ne se répandent pas de partout. Et donc, l'idée, c'est de limiter l'impact au maximum pour limiter le dommage. Donc là aussi, c'est des mesures qui sont des mesures d'architecture, des systèmes qui peuvent être prises et qui vont limiter un peu cet impact, la taille de l'impact. Pour les individus, on peut aussi avoir cette idée de minimisation en faisant ce que Philippe disait, en étant conscient de ce qu'on met en ligne, des données qu'on connecte. On n'est pas obligé de tout mettre, tout connecter. Donc, on peut avoir des données. On peut très bien imaginer avoir, par exemple, ces données financières et fiscales sur un disque dur qu'on ne branche qu'au moment de faire ces opérations financières ou fiscales. Si on stocke des choses, hein, c'est ce genre d'idée qu'il faut avoir, c'est-à-dire avoir des approches qui ne sont pas trop compliquées, parce que sinon, on ne les met jamais en œuvre. Il faut que ce soit simple, ça ne prenne pas trop de temps, mais que ça rende, par contre, la vie d'un criminel éventuel difficile. Et là, dans ce cas-là, il ira voir ailleurs. Ce qui me rappelle d'ailleurs une anecdote dans une fonction précédente où, justement, on parlait de questions de sécurité à un groupe de travail européen. Et les représentants d'un pays, disons, de l'Europe orientale, avait résumé la situation en disant finalement, ce qu'on doit faire, c'est ce que dit le proverbe, il ne faut pas courir plus vite que l'ours, il faut courir plus vite que son voisin.
Ouais, donc si le voisin est plus faible, l'attaqueur aura tendance à attaquer le voisin.
Alors, moi, ce que je donnais, c'était oui, c'est exactement ça. Mais après, et c'est là où on ne peut pas réduire les choses juste à l'action individuelle, c'est que d'un point de vue individuel, c'est ce qu'on doit faire. On doit en gros dissuader le voleur de nous embêter. Après,
c'est le rôle d'une alarme à la maison aussi.
Voilà, par exemple. Et ce qui fait que le cambrioleur ira chez le voisin aussi. Mais l'idée, c'est de ne pas se satisfaire de ça. Et on a là aussi l'action des autorités publiques qui est extrêmement importante pour pouvoir permettre justement à ceux qui sont les plus faibles d'avoir quand même cette protection minimale. Et c'est donc ce qu'on essaye de faire, nous, notamment au niveau de la Luxembourg House of Cybersecurity, c'est de mettre à disposition de l'ensemble de l'écosystème des outils qui soient accessibles ou de la documentation qui soit accessible, y compris, entre guillemets, pour les plus petits, quand on parle des entreprises, et qui leur permettent d'avoir ce niveau minimal de sécurité qui fait que, à terme, le rêve, ce serait que la réputation chez les criminels, c'est pas la peine d'aller essayer de frauder à Luxembourg puisque on perd notre temps et notre argent. Donc ça serait la situation idéale où là tous les résidents sont protégés. On commence, c'est difficile et on commence déjà maintenant en ayant toutes ces actions en cours. Donc on a des outils très techniques qui ont été créés par un des deux centres de la LHC, le Circle, et puis on a tout un tas d'outils plus abordable. Philippe pourrait en parler, puisqu'il est du NC3, qui est le deuxième centre, qui est plus focalisé sur le capacity building, les questions organisationnelles et humaines liées à la sécurité.
Bon, merci pour la transition, parce que, en effet, je me disais, si on est une entreprise comme Porkes, avec la surface qu'on a, les économies d'échelle, le niveau cybersécurité, probablement, ce n'est pas super onéreux. En relatif, Lars, maintenant, j'espère que tu m'en veux pas. Mais maintenant, si on est une petite PME avec une vingtaine de personnes, je suppose que là, le coût devient plus important. Et puis, si on doit faire un trade-off entre faire du business et sécuriser ses systèmes, quand même tendance qu'un entrepreneur a tendance à dire, on va faire du business. Donc, sur le terrain, pratiquement, qu'est-ce qu'un entrepreneur peut faire à qui faut-il s'adresser et qu'est-ce qu'il va recevoir de vos différents organismes pour rendre ces systèmes plus résilients?
Je vais commencer et tu peux me complémenter, Bertrand, après. Chez l'NC3, pour un peu expliquer notre but, c'est en fait la sensibilisation dans le domaine de la cybersécurité. Le but, c'est de dans un max, supporter les municipalités et les SME. Dans les deux domaines-là, ça reste très difficile de proposer. Let me rephrase. Ce qu'on offre, c'est des outils très pratiques et faciles. Si, par exemple, je prends notre testing plateforme pour, on va dire, une entreprise qui a un site web et peut-être un shop qui vient avec quelques utilisateurs, donc quelque chose de base, pas très complexe. S'il veut tester, par exemple, la sécurité du site, déjà, avec notre outil, il permet de faire un scan très simple, de voir, OK, est-ce que mon certificat, il est propre ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui sont détectés par notre plateforme? Et je pense déjà, ces petits outils-là permettent de ne pas prendre une excuse d'argent parce que c'est gratuit, c'est offrir par nous. Et c'est un bon début pour avoir une image de ce qu'on peut faire mieux. On a par exemple aussi les diagnostics, ce qu'on appelle. Les diagnostics, c'est des questions qu'on pose où l'entrepreneur peut voir, OK, cette question-là, je ne peux pas pu répondre très bien. Où on a en fait vu que voilà il y a un risque là, un risque potentiel là et puis il commence vraiment très simple de s'améliorer sans d'avoir aller chez un grand acteur et payer autant d'argent. Je pense le but vraiment c'est de commencer simple et d'aller step by step. À part de se dire « Ah, j'ai besoin d'une solution A à Z », de toute façon, ça n'existe pas. Voilà.
On peut aussi rajouter le proverbe bien connu « La sécurité n'a pas de prix, seulement un coût ».
Oui, mais pour prolonger ce que disait Philippe, en fait, donc, il faut se souvenir aussi, comme nous sommes une agence publique, nous ne sommes pas là pour faire de la concurrence aux entreprises de sécurité du marché. Donc, notre idée, c'est plutôt, c'est ce que décrivait Philippe, de faire les premiers tests ou conseils de base qui permettent d'amorcer la démarche de sécurité dans les petites et moyennes entreprises. Après, on les renvoie vers le marché parce qu'on veut aussi que se développe un écosystème d'entreprises luxembourgeoises de sécurité. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau de LHC, en complément de ce que fait le NC3, on va avoir une plateforme qu'on appelle cybersecurity.lu, ou communément appelée Cyberlux, qui permet d'avoir une vision de l'ensemble des acteurs du marché, donc tous les offreurs de sécurité. Et on a plus de 300 entreprises qui se sont inscrites. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une offre. Évidemment, compte tenu du poids du secteur financier dans l'économie luxembourgeoise, une bonne partie de cette offre est déjà captée, entre guillemets, et c'est pour ça qu'il y a toujours besoin de créer des nouvelles entreprises qui, elles, seraient plus destinées à travailler avec les PME. Donc, c'est encore, l'écosystème est encore en cours de maturation, et c'est une de nos missions d'aider cette maturation.
Et puis, si on va un peu dans la direction de la sensibilisation, ce qu'on a déjà entendu avec notre Room 42, la simulation d'attaque pour les participants, c'est pas des attaques techniques, mais plutôt psychologiques, où on peut vraiment tester les processus définis, peut-être, ou juste voir est-ce qu'on est capable voilà, de gérer le stress, de communiquer d'une façon simple et effective, ou est-ce qu'on panique totalement. Et avec la Room 42, il y a eu beaucoup de gens qui ont réalisé qu'effectivement, il faut peut-être se préparer un peu plus, mieux, où ils ont détecté des faiblesses et puis ils ont acté là-dessus. Donc, je pense la Room 42, c'est un bon outil pour faire sensibiliser les gens qu'une attaque potentielle, c'est pas joli quand même.
Et pour accéder à ce Room 42, c'est via votre site ?
Voilà, donc pour l'instant, c'est simplement de contacter Luxembourg House of Cyber Security. Et puis, vous disiez que vous êtes intéressé par la Room 42. On vous explique exactement comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut couvrir. Et puis, vous êtes invité dans nos locaux pour y participer. Et voilà, il y a un briefing, un debriefing pour aussi discuter qu'est-ce qui s'est passé. Et déjà, un petit spoiler, vous ne gagnerez pas.
En toute objectivité, tu l'as dit tout à l'heure, il faut être meilleur que son voisin. Si on observe les pays limitrophes, est-ce qu'on est bien équipé? Est-ce que vous avez des idées? Combien d'entreprises ont demandé de vos services?
Je dirais, ce qui est intéressant par rapport aux pays limitrophes, bon, évidemment, quand on regarde la France ou l'Allemagne, on est face à des grands pays qui ont des ressources très importantes. On voit leurs agences centrales. Bon, c'est impressionnant, mais ils ont aussi des défis qui sont d'un autre ordre. Toutefois, ce qu'on constate, parce que Luxembourg est quand même très présent dans les instances européennes, on constate que l'on est perçu comme un pays très actif en matière de cyber. On dit souvent, on le dit en anglais, mais on boxe au-dessus de notre poids, en gros. On a quand même réussi pas mal de choses, mis en place pas mal de choses qui font que Luxembourg est bien perçu. Il y a encore du travail, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, mais il y a une reconnaissance. Et on l'a vu notamment au travers, par exemple, de l'élection de Pascal Station comme chairman du Governing Board du nouveau Centre européen de compétences. Il était face à des concurrents de toute l'Europe. Et bon, le discours luxembourgeois est bien passé parce qu'il y avait ce côté expérience réelle. Ce n'était pas juste du discours. Il y a des choses derrière qui soutiennent un peu les affirmations. Il y a le fait aussi que le Luxembourg parle à tout le monde. On n'est pas dans une coterie, dans un groupe, enfin. Et puis, la dernière chose, c'est qu'il y a quand même une vision, et une vision pragmatique, c'est-à-dire qu'on veut des résultats. On ne veut pas juste faire des jolis PowerPoint et se féliciter avec, mais on voudrait des résultats. Et donc, je crois que c'est des choses qui sont très importantes et qui sont un peu la marque Luxembourg et qui se voient en matière de sécurité. Maintenant, en termes de nombre d'entreprises, ça, c'est difficile. Parce que bon, nous sommes une agence publique, pas une entreprise commerciale, et on n'a pas vraiment le nez sur les chiffres. Mais il est clair qu'on a plusieurs dizaines d'entreprises qui ont fait, par exemple, la Room 42. On a aussi délivré un grand nombre de formations à la sensibilisation, aussi bien dans des administrations publiques que dans des entreprises privées. Et puis, on voit que les outils qui sont créés par le Circle, pour certains d'entre eux, comme la plateforme d'échange sur le malware et sur les, disons, tout ce qui est threat intelligence, donc, connaissance de la menace, là-dessus, c'est presque un standard international. De facto, elle est répandue dans le monde entier. Ils sont invités, y compris aux États-Unis, par exemple, pour faire des formations. Donc, il y a quand même quelque chose, il y a un impact qui est clair. Et c'est encourageant, ça veut dire continuons, nous sommes sur la bonne voie.
Alors, au moins maintenant, on part dans une direction positive, parce que quand on a commencé l'épisode, j'étais quand même un peu surpris par l'aspect négatif. Mais Lars, peut-être que toi, tu peux nous donner une image comment le système bancaire luxembourgeois se bat au niveau de cybersécurité par rapport aux voisins. Est-ce que c'est un peu la même situation, en bas au-dessus de notre poids ou...
Non, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut le voir. On a les mêmes adversaires et je crois que on a vu récemment que les frontières nationales n'arrêtent aucune attaque informatique. Donc clairement, on peut compter sur les faiblesses de quelqu'un d'autre, mais je crois qu'il faut quand même être protégé par rapport à ce qui peut arriver. Et donc du coup. Je crois que toutes les banques de la place se protègent contre les menaces réelles qui existent à travers le monde, parce que on regarde quand même de très près ce qui se passe ailleurs et on est constamment en train de s'adapter par rapport à ce qui peut arriver. Donc là, au niveau luxembourgeois. Je crois que rien que de par les exigences réglementaires, on est bien placé, on est constamment mis à l'épreuve pour s'améliorer, pour suivre tout ce qui fait surface. Et donc, je crois qu'on ne peut pas dire qu'on se bat au-dessus de notre poids. On est clairement confronté à des menaces qu'on prend très au sérieux et qu'on essaie d'adresser au plus vite. Donc, je crois que là on n'est pas concurrent entre nous, entre banques, sur le domaine de la sécurité cyber. Et donc, du coup, chacun a les mêmes défis et on combat même l'un à côté de l'autre.
Si maintenant vous avez le choix et on vous donnerait l'opportunité, qu'est-ce qu'on devrait encore faire pour avancer d'un pas supplémentaire? Maintenant, dans une pure hypothèse, hein, donc vous dites, là, il y a peut-être quelque chose qui pourrait encore rajouter une couche.
Je crois qu'il faut surtout regarder ce qui arrive, anticiper les attaques et s'y préparer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui ne se fait pas aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui va continuer. Donc, il faut constamment s'adapter. Et ça, c'est vraiment le plus important. On n'a jamais terminé. C'est une course qui ne se termine jamais. Tant qu'on a des systèmes qui sont connectés, qui sont... où il y a de l'électricité dedans, on devra partir du principe que tôt ou tard, quelqu'un pourrait être tenté d'exploiter une faiblesse dans le système. Et il faut être préparé, il faut continuer à se protéger au maximum tous les jours, chaque matin. On doit regarder ce qu'on peut améliorer cette journée-là.
Et peut-être, bon, si on révisite un peu la sensibilisation, je pense commencer au plus tôt, même dans les écoles, de expliquer ce que c'est possible et pas nécessairement comment, mais que certains attaques sont possibles, qu'on ne doit pas partager tout de même, qu'on ne doit pas avoir chaque application qui est dans un hype, hein, et vraiment commencer en bas pour agrandir une société peut-être privacy first aussi, hein, security first, voilà des une société qui est aware, qui néglige pas tous ces trucs. Je pense si on arrivait un jour dans ce stade là ce serait très très cool, je pense. Si on reste dans l'hypothèse.
Oui, non. Moi, j'insisterais sur le partage. Le partage d'informations entre professionnels, donc des informations plutôt destinées à améliorer, comme disait Lars, la prévention, se préparer mieux, parce qu'on sait quelles sont les menaces qui viennent. Et puis le partage aussi, de documentation, de formation du côté de la population et des défenseurs, des choses qui soient accessibles et qui permettent à tout un chacun aussi d'adopter, disons, des pratiques minimales qui minimisent énormément l'exposition. Donc, dans le prolongement un peu de ce que disait Philippe, avoir non seulement l'éducation à l'école, mais ensuite avoir quelque part cette information qui est partagée de manière un peu durable, comme ça, les gens peuvent y revenir. Parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que ces systèmes sont complexes, hein, ou compliqués en tout cas, à l'usage notamment. On est souvent avec des outils dont on n'utilise qu'une petite partie des fonctionnalités, et on ne connaît pas leurs fonctionnalités de sécurité la plupart du temps. Et c'est une chose, Philippe parlait d'Apple tout à l'heure, Apple a partagé maintenant des guides pour les journalistes, pour les membres d'organisations non gouvernementales qui sont exposés, de manière à ce qu'ils puissent sécuriser leur système et réduire au maximum leur exposition à des attaques qui peuvent être particulièrement sophistiquées, puisqu'ils sont souvent visés par des services de pays autoritaires. Donc, ça commence à se mettre en place, mais ça serait bien que ça se généralise et surtout que cette information soit facile à trouver. Parce que partager, ce n'est pas seulement mettre en ligne, c'est aussi faire en sorte que les gens puissent trouver l'information, sachent où aller. Et là, j'ai envie de dire, ce que vous faites avec le podcast fait partie de cette facilitation, c'est clair.
Encore un point positif, super. Mais j'ai quand même encore une grosse crainte. Peut-être que j'exagère, mais c'est l'intelligence artificielle. Donc, on va aboutir tôt ou tard aux agents d'intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle générative qui va faire des tâches qu'on va lui demander, qui va s'auto-améliorer et tout ça. Je suppose que tout ça, ça va rendre votre travail pas plus facile non plus.
Ça dépend. Je crois que l'intelligence artificielle, on peut la voir comme opportunité, on peut aussi le voir comme menace, et probablement la réalité est entre les deux. Donc, je crois qu'on doit utiliser aussi toutes les possibilités, les capacités de solutions qui sont basées sur une intelligence artificielle pour se protéger. Et on voit quand même beaucoup de solutions qui peuvent faire des choses que il y a 5 ans, on croyait que c'était jamais possible. Aujourd'hui, ça existe. Donc, je crois qu'il faut clairement saisir l'opportunité pour utiliser ces solutions-là dans un but de protection, parce qu'on sait aussi que les attaquants, ils utilisent également l'intelligence artificielle pour préparer ou pour conduire leurs attaques. Donc, c'est pas une question si on doit le faire, c'est juste que on doit le faire dès maintenant.
Alors, ce qu'on voit, pour l'instant, en tout cas, ce qu'on a observé, c'est une amélioration de certaines étapes des attaques grâce à l'intelligence artificielle, mais on n'a pas vu un changement, comment on dit, un changement de paradigme complet. Donc, ça veut dire que les outils de défense, certains sont mis à mal, mais sur la chaîne, l'ensemble des outils de défense, il y en a qui sont encore efficaces. Donc, si on a en place une sécurité à peu près cohérente, on est quand même encore protégé. Ça, c'est un point qui est important. Il ne faut pas paniquer. Il faut prendre au sérieux, effectivement, les choses. Donc, l'intelligence artificielle peut être utilisée par exemple, par les phishers pour faire des messages de meilleure qualité, pour créer ces deepfakes, donc des messages vidéo ou des messages audio. On voit ce genre de choses qui émergent. Mais c'est, j'ai envie de dire, une optimisation d'attaques existantes. Du côté des défenseurs, comme disait Lars, on voit des choses qui sont possibles aujourd'hui qui ne l'étaient pas il y a quelques années. Et il y a un point en particulier, la capacité à analyser les énormes volumes de données qu'on a, qui sont générés par les outils de sécurité et qu'on ne peut pas analyser manuellement. C'est devenu trop gros, il y a trop de systèmes connectés. Et grâce à l'intelligence artificielle, il devient possible de faire émerger les points suspects et dire, ah ben tiens, là, il y a un incident ou il y a un événement qui est bizarre. Et ça permet donc de rediriger les experts humains sur les points pertinents et d'éviter de les noyer sous des tas d'alertes qui n'en sont pas. Donc, on peut voir une amélioration de la sécurité par ce biais. L'optimisation peut aller dans les deux sens. Mais il est très clair qu'il faut être super vigilant parce que ce qu'on voudrait pas voir émerger, c'est des attaques qui sont conduites par l'intelligence artificielle. Parce que là, on saurait pas trop. Elle peut improviser d'une manière qu'on n'a pas anticipée. Mais moi, j'ai pas vu en tout cas pour l'instant de ce type d'attaque. Pas d'informations à ce sujet. Donc, on touche du bois et on espère qu'on en reste au schéma classique. En attendant, et surtout que pendant ce temps, on investit dans le développement d'outils de sécurité qui, eux, bénéficient de cette intelligence artificielle et rendent les défenseurs plus efficaces.
Bon, je pense, niveau cas pratique, on a eu récemment quelque chose qui est arrivé dans les news. Je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, mais un de nos principaux fournisseurs ici à Luxembourg, donc LuxTrust, a été attaqué. Est-ce que vous avez envie d'illustrer un peu ce qui s'est passé à ce niveau-là et comment on pourrait éviter ce genre de scénario?
De notre côté, la seule chose que nous, on a vu, c'est que le service de LuxTrust était indisponible. On a eu des informations, mais qui sont pour l'instant, de notre côté, pas vérifiées. Donc, on sait juste que le fournisseur était injoignable et du coup, on a eu des impacts de notre côté. Donc là, il faut attendre, à mon avis, la conclusion des analyses côté LuxTrust, ce qui s'est réellement passé. Et ensuite, on va certainement, de notre côté, adapter l'un ou l'autre processus pour tenir compte de cette faiblesse qui peut être temporaire ou qu'il faudra tout simplement encadrer de manière définitive.
Il y a à peine un an, on avait une grosse faille dans le système. Ça, c'était, je pense, Cloudflare, non ? Où il y avait des avions qui n'ont pas décollé parce que les logiciels n'ont pas marché, des choses comme ça. Est-ce que... je suppose qu'il faudra s'habituer à ce genre d'événements. Et est-ce que la meilleure chose de prévoir, d'éviter ces événements, c'est d'avoir un circuit qui pourra tourner en parallèle, genre, en tant que contingency plan?
Je crois que pour tous les processus critiques d'une entreprise, on doit au moins avoir mené la réflexion. Qu'est-ce qui se passe si je n'arrive pas à faire tourner ces systèmes-là, si je n'arrive pas à faire tourner ce processus? Et donc, dans cette réflexion-là, on peut avoir plusieurs approches. La première, c'est de dire, OK, on accepte que cette activité-là, même si elle est critique, ne fonctionne pas pendant 4 heures ou 2 jours, à voir. Hein. On peut aussi voir, est-ce qu'on a des solutions de repli qu'on pourrait activer si la panne durerait trop longtemps. Et donc, ça peut être soit un système parallèle, mais en général, la réalité économique fait que c'est rarement le cas. Souvent, je crois que la tactique qui est employée, c'est d'avoir une solution indépendante qui permet de fonctionner en mode dégradé pendant un certain temps. Et je crois que ça... d'un point de vue coût, c'est acceptable et quelque part, ça donne de la rassurance pour couvrir la grande majorité des scénarios qui peuvent arriver. Et je crois que c'est quand même quelque chose qui est très commun, c'est de réfléchir à vraiment à une solution de mode dégradé qui permet de couvrir une période plus problématique qui durerait quelques heures.
Et alors, il n'y a pas de réponse universel, puisque ça va dépendre du secteur d'activité. Par exemple, dans le monde des hôpitaux, actuellement, il y a toute une réflexion parce qu'on ne peut pas se permettre de faire l'impasse et d'arrêter l'hôpital. Les gens meurent. Donc, c'est assez clair. Donc, là-dessus, évidemment, les autorités publiques sont engagées. C'est des secteurs qui sont considérés comme hautement sensibles. Par contre, au niveau d'une entreprise, oui, ça a été bien résumé par Lars. Et en fait, ça fait partie des fonctions de sécurité. C'est la continuité d'activité. C'est quelque chose qui est défini formellement. Il y a des méthodes. Il faut les suivre. Et puis, progressivement, mettre en place une planification pour garantir sa continuité d'activité. D'autant que, pour certains secteurs, c'est une obligation de par la loi. Maintenant, pour revenir à la question initiale sur LuxTrust, je crois que ça touche à un point qui est aussi assez important à avoir en tête quand on partage l'information. C'est le fait qu'il y a un certain nombre de choses qui demandent du temps à être analysées du point de vue technique parce qu'elles sont complexes. Donc, on peut pas donner de réponse. Et il faut être très prudent. Je me souviens d'un cas qui a été très, très médiatisé. C'est celui de TV5 Monde en 2015 en France, puisqu'ils ont eu leur système complètement détruit par des attaquants. Et enfin, ça avait l'air d'être revendiqué sur leur site, qui avait aussi été piraté par l'État islamique. Et pendant plusieurs jours, donc tout le monde s'est un peu excité dans les cercles parisiens autour de cette attaque foudroyante de l'État islamique. Et quelques temps plus tard, on s'est rendu compte, en fait, que c'était une attaque qui avait été faite par le renseignement russe. Donc, c'est... Voilà. Et ils avaient fait exprès de le signer comme... Et ce qui les a d'ailleurs perdus, c'est le fait que leur traduction en arabe du communiqué était visiblement pas celle d'un locuteur natif. Mais il a fallu du temps pour arriver à cette conclusion. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être extrêmement prudent dans les jours qui suivent. C'est frustrant, mais c'est pas forcément une mauvaise volonté de la part de la victime ou des autorités ou du prestataire de sécurité. Il faut vraiment tout vérifier du point de vue technique et puis sur d'autres aspects pour arriver à donner une réponse qui soit crédible. Et on avait eu exactement le même type de problème en 2018 en Corée quand le Il y avait eu l'attaque appelée Olympic Destroyer contre les sites de... les sites des Jeux Olympiques d'hiver en Corée, où la même chose, on a cru d'abord que c'était un pays, et puis en fait, c'était encore un autre pays.
Messieurs, je vous remercie. Moi, je vais pouvoir mieux dormir ce soir, je crois.
Evergreens by Spurkiss. Restez à jour avec tous les épisodes en vous abonnant à notre podcast.